Bonjour. Tout à l'heure, en introduction de ce culte, on a chanté « Je te donne tout ». L'apôtre Paul parlait de sacrifice vivant, et c'est ce dont on va parler ce matin. On pourrait comparer la conversion à Jésus-Christ à un changement de pays, un changement de camp, par conséquent, un changement de loi. Le chrétien est quelqu'un qui est justifié par la foi, c'est-à-dire qu'il est inscrit dans le camp des justes. Et cela non parce qu'il le mérite, mais parce que Christ a effacé ses fautes à la croix. Paul dit aux Corinthiens, « Je n'ai rien sur la conscience, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. » Et la lettre qu'il écrit aux Romains développe ces thèmes. Alors ce matin, on va voir quelques aspects de cette lettre aux Romains en lisant au chapitre 12. Et nous allons y voir un tas de recommandations, d'impératifs. Et on va essayer de voir ensemble ce qu'il y a derrière ces recommandations. Alors Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos sacrifices vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que les membres n'ont pas tous la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous les membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant les hommes. S'il est possible, et autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés. Mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Alors pour introduire ce chapitre, Paul nous dit, je vous exhorte donc par les compassions de Dieu, ou dans d'autres versions, je vous invite donc à cause de cette immense bonté de Dieu, ou puisque Dieu a manifesté sa bonté envers nous. Par là, Paul veut dire que toutes les exhortations qu'il nous a présentées dans ce chapitre dépendent de tout ce qu'il a dit avant, tout ce qui précède. Et les chapitres d'avant nous disent surtout l'immense amour de Dieu. Cet amour qui se démontre en Jésus-Christ qui est mort pour nous sauver, pour nous réconcilier avec Dieu, pour enlever toute la condamnation qui pesait sur nous, et pour nous faire vivre selon l'Esprit. Alors si on a envie de mettre en pratique ce qui nous est dit dans le chapitre 16, c'est surtout pas pour mériter le pardon de Dieu, mais c'est parce que nous avons été pardonnés, pardonnés de façon imméritée, et que nous acceptons la suite logique et raisonnable, nous nous offrant nous-mêmes à Dieu en un sacrifice vivant. Le sacrifice, c'était un phénomène religieux universel. Ça a passé un peu de nos jours. Au moment où Paul écrivait ces lignes, les Grecs, les Romains, les Gaulois et bien d'autres adoraient leur Dieu en offrant des sacrifices, des animaux en sacrifice. Un cochon, un coq, un mouton, une chèvre, un bœuf. Les Juifs aussi pratiquaient le sacrifice des animaux, selon des règles extrêmement précises que nous pouvons lire dans l'Ancien Testament. Ces offrandes faites à Dieu ou à la divinité soulignent la distance qui existe entre l'homme et la divinité, que l'homme ne peut pas s'approcher d'un Dieu les mains vides. Il doit montrer son respect, sa soumission avant même de penser à ouvrir la bouche. Dans la religion israélite, en plus, le sacrifice dit que l'homme doit être purifié de ses péchés et que seul le sacrifice d'une vie peut le faire. Et là, Paul reprend cette coutume que tout le monde de son époque peut comprendre. Il nous dit que notre réponse à Dieu, à l'amour de Dieu, est de nous offrir nous-mêmes à Dieu. Nous-mêmes. On ne peut pas se faire remplacer. Aucun prêtre, aucun parent ne peut le faire à notre place. Nous nous offrons nous-mêmes à Dieu en sacrifice vivant. Sacrifice vivant. On ne se supprime pas, on ne se tue pas. Mais on s'offre à Dieu tout aussi complètement et de façon aussi irrévocable. Ça, c'est le véritable sacrifice que nous offrons à Dieu. Le culte du dimanche matin en fait partie, mais pas que. Le reste du dimanche, le reste de la semaine, toute notre vie en fait partie. C'est le don total de soi. Et avec quelque chose de moins, quelque chose que nous retiendrions, nous ne serions pas en phase avec l'immensité de l'amour de ce que Dieu a fait et de ce que Dieu a fait pour nous. Alors on pourrait se dire peut-être que cela relève du fanatisme. On pourrait penser à certaines pratiques moyenâgeuses ou au fondamentalisme islamique. Mais vous remarquez que Paul ne parle pas de fanatisme. Il parle de sacrifice vivant, pas de kamikaze. Il parle d'un culte raisonnable. Raisonnable, les différentes traductions du mot logikos employé par Paul, c'est logique, évident. Il parle de renouveler son intelligence et non de la débrancher. Peut-être quelques-uns ont vu Envoyé spécial de cette semaine. La façon qu'ont les membres de l'État islamique de laver les cerveaux des enfants. Ce n'est pas ça que Paul conseille. Paul parle aussi de discernement. Et puis il donne toutes sortes d'exemples de ce que ce sacrifice vivant implique. Des exemples de la vie d'Église et des exemples de la vie tout court. Et d'abord, trouver sa juste place dans l'Église. Il commence par dire que chacun doit la trouver en se gardant de deux pièges. Le premier piège, c'est de se croire important, de vouloir prendre de la place. Je dis à chacun de vouloir de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. L'Église, c'est un petit univers, un microcosme, où quelqu'un peut vouloir prendre du pouvoir, se valoriser, s'imposer. Mais ce n'est pas une attitude normale pour un enfant de Dieu. Car le corps, l'Église, c'est un corps avec différents organes, différents membres. Tous nous dépendons les uns des autres. Et chacun doit trouver la place qui correspond au don qu'il a reçu de Dieu. Chacun doit pouvoir servir dans la simplicité et dans l'humilité. Il n'y a pas de place pour l'ambition ni l'orgueil. Le deuxième piège, et il est peut-être plus courant, il consiste à se sous-estimer et à ne pas prendre la place que Dieu veut nous donner, par crainte, par manque d'expérience ou par paresse. Peut-être aussi par manque de communication avec les responsables. Paul dit « Ayez du zèle, non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Or, dans la Bible, vous savez, il y a plusieurs listes de dons à mettre en œuvre dans l'Église. Si on les mettait côte à côte, on trouverait facilement une vingtaine de dons. Ce qui fait penser qu'aucune des listes se veut exhaustive, c'est des échantillons, des exemples, à nous d'en trouver d'autres. Quels sont les types de services ou de dons mentionnés dans Romains 12? Alors, il y en a qui concernent la prédication, l'enseignement, l'encouragement, autrement dit, la prise de parole, dans un petit groupe ou devant toute l'Église. Il faut que ce soit fait selon la foi, dit le verset 6, c'est-à-dire conforme à la parole de Dieu. Mais surtout, il faut que ceux qui sont capables de parler à bon escient en fassent profiter les autres. Et dans l'Église, on essaye de discerner quelles sont les personnes qui ont le potentiel et de les former. Or, ça comporte toujours des risques, tout comporte un risque, mais ne pas le faire compromettrait notre avenir et nous affaiblirait déjà tout de suite, aujourd'hui. Il y a aussi les dons qui concernent la générosité ou le fait d'aider les autres. Paul parle de celui qui exerce la miséricorde, ou celui qui aide les pauvres, ou encore celui qui secourt les malheureux selon les traductions. Tout le monde est appelé à servir, à donner, à aider les autres. Mais Paul pense ici à ceux qui ont un don particulier, un talent particulier pour cela, qui y trouvent aussi leur plaisir, leur bonheur, et qui sont appréciés pour cela. Alors dans ce domaine, beaucoup de choses se font au niveau individuel dans l'Église. Si vous pensez que vous pouvez faire plus, que l'Église peut faire mieux, alors on pourra en reparler le 19 octobre, lorsqu'on parlera de l'hospitalité, pour que chacun puisse mieux servir Dieu avec le ministère qu'il a donné à chacun. Et dans cette liste de dons dont parle Paul dans ce passage de Romains, il y a un don qui n'est pas la prise de parole en public, ni la générosité. C'est au verset 8 que celui qui préside le fasse avec zèle. Alors le mot traduit ici par « préside » n'a rien à voir avec la présidence d'un culte ou d'une assemblée générale. Ça ressemble plutôt à la présidence comme notre président de la République. D'autres versions disent « diriger », Darby traduit par « celui qui est à la tête ». On dira aujourd'hui « celui qui a une aptitude au leadership ». Et celui qui a ce don ne doit pas s'imposer comme un dictateur. Par contre, il doit inspirer les autres, être un modèle pour eux, être à leur service, pour qu'eux puissent s'organiser mieux pour servir Dieu. Vous vous souvenez que Paul disait « Soyez mes imitateurs ». Et là encore, l'Église a besoin de leaders. Parmi les jeunes, dans les groupes de maison, l'Église de Sonnera en a besoin, l'Église de France en a besoin. Alors, si tel est votre don, nous devons faire de notre mieux pour vous encourager à le développer. Quand nous nous offrons à Dieu comme un sacrifice vivant, nous trouvons notre juste place dans l'Église pour parler, pour servir, pour assumer des responsabilités de leader. Mais le plus important est certainement ailleurs. Il est certainement dans la qualité de notre vie. Qu'est-ce que c'est la qualité de notre vie? Pour les journaux, c'est le nombre de jours de congé, de RTT, l'absence de pollution, l'accès à la culture, aux loisirs, aux espaces verts, de vivre à la campagne, de manger bio, enfin, j'en passe, le niveau de salaire, la sécurité en ville, enfin, des tas de choses. Mais c'est pas ça que Paul veut nous dire. Quand nous nous offrons à Dieu, en réponse à son amour, quelque chose doit changer dans nos attitudes, dans notre caractère, dans notre comportement. C'est cela aussi que nous voyons tout au long de ce chapitre. Moi, j'y ai compté 27 verbes qui donnent des exemples de ce que nous devons faire ou ne pas faire. C'est impressionnant. Et on peut les résumer par les deux idées du verset 9, la sincérité dans l'amour et l'attachement au bien. Et je crois que c'est encore plus important que de trouver sa juste place dans l'Église. Imaginez, un prédicateur formidable, pas moi, hein, qui a des relations pénibles avec les gens, un leader dynamique mais malhonnête, quelqu'un qui aide les pauvres tout en les méprisant. Ces dernières semaines, on a vu une expression pour les pauvres, les sans-dents. La qualité de notre vie est encore plus importante que nos dons et notre service. Imaginez encore le plus doué des musiciens qui critique tous les autres. L'ancien qui a une vie dissolue. Le trésorier qui n'aurait aucune vision de l'œuvre de Dieu et qui, accessoirement, piocherait dans la caisse. Cela ne doit pas être. Quand l'apôtre Paul fera la liste des qualités des anciens et des diacres, la plupart de ces qualités sont demandées à tous les chrétiens, sont celles que tous doivent montrer. Pas violent, mari d'une seule femme, pas attaché à l'argent, pas ivrogne, enfin, etc., vous les connaissez. La qualité de notre vie est plus importante que nos dons et notre service. Alors, laissons-nous donc interpeller par la liste que nous fait Paul et que je vais énumérer. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous au bien. Ayez de l'affection les uns pour les autres. Soyez actifs et non paresseux. Soyez fervents d'esprit. Soyez de bons serviteurs pour le Seigneur. Soyez joyeux à cause de votre espérance. Tenez le coup dans la détresse. Persévérez dans la prière. Soyez solidaires des frères et des sœurs dans le besoin. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Ne les maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie. Et pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en bon accord les uns avec les autres. Ne soyez pas orgueilleux. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Efforcez-vous de faire ce qui est bien devant tous les hommes. Autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous. Ne vous vengez pas vous-même. Laissez agir Dieu. Ne vous laissez pas vaincre par le mal. Soyez vainqueurs du mal par le bien. Tout un programme. Être renouvelé dans son intelligence, s'offrir à Dieu en sacrifice vivant, c'est tout cela. C'est notre vocation, à cause de l'immensité de l'amour de Dieu pour nous, parce que nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ, parce qu'il n'y a plus aucune condamnation pour nous qui sommes en Christ. Nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Alors pour conclure, peut-être, comme moi, vous êtes loin, vous réalisez que vous êtes loin, ou même très loin, de ce que Dieu demande de vous, ou de ce que Dieu veut vous donner. Alors pour vous, comme pour moi, c'est peut-être le moment de la réflexion. Je vous invite donc, frères, les sœurs aussi, hein, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable, spirituel. Amen.